Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Dominique Bourg, tête de liste d'urgence écologie aux élections européennes. Une liste soutenue par Delphine Bateau, également candidate. Bonsoir.
Bonsoir.
Dominique Bourg, première question. Quels sont pour vous les enjeux de ces élections européennes?
Alors, le principal enjeu, c'est l'Europe elle-même et c'est ce qu'elle peut faire. L'Europe, c'est la très bonne échelle pour résister aux multinationales. C'est la très bonne échelle pour résister aux empires. C'est la très bonne échelle pour faire et mettre en place des politiques écologiques sérieuses. Elles ne le sont pas, je vous le dis tout de suite. Mais en tout cas, ça serait une échelle excellente pour le faire. Mais quand même, l'Europe d'il y a un peu plus d'une décennie maintenant, c'est quand même 80% du droit de l'environnement en France. Donc sur un plan écologique, ça a été important. L'Europe, dans les années, si vous voulez, 90, c'était même une sorte de leader dans le domaine et réussissait à baisser ses émissions. Là, les dernières années, elles ont au contraire augmenté. Ça a à peine baissé l'an dernier, mais c'est peut-être plus pour des facteurs conjoncturels. Hein, par exemple, la manière dont l'hiver se comporte, etc., plutôt que les politiques menées. Donc voilà, l'Europe, c'est un enjeu fondamental.
Alors, en lisant votre programme, Dominique Bourg, j'ai noté que vous vous définissiez d'abord comme terrien avant d'être européen ou français.
Bah absolument, c'est l'idée même, si vous voulez, d'écologie intégrale. C'est l'idée que nos économies présupposent des sociétés, avec leurs règles, leurs droits, etc. Et ces sociétés, elles, présupposent un système terre. Et là, on a fait l'inverse. On a fait comme si l'économie existait par elle-même et comme si elle pouvait imposer au reste de la société ses diktats et à la nature elle-même. Ça, vous voyez très bien les difficultés, on va y revenir, sur lesquelles on débouche, qui sont d'ailleurs aujourd'hui alarmantes.
Alors, vous souhaitez décréter l'état d'urgence écologique. Vous dites être lucide, pas alarmiste. Pour autant, votre diagnostic sur l'état de la planète est assez effrayant. Vous avez le sentiment que les électeurs n'ont pas encore pris conscience des dangers?
Non, je pense qu'ils ne les ont pas pris et que, quand bien même ils finissent par acquérir un certain nombre de connaissances, entre connaître et puis vraiment comprendre et accepter ce qu'on connaît ou ce qu'on découvre, ce n'est pas la même chose. Donc il y a une petite démarche de connaissance qui est en cours, mais le fait de réaliser, on ne l'est pas. Alors vous dites alarmiste, non, si vous voulez, la situation n'est pas alarmiste, la situation est alarmante. Et ce n'est pas moi qui vous le dis, ce sont des milliers de chercheurs de par le monde. Alors on a deux canaux d'expression, si vous voulez, ces chercheurs, deux canaux favoris. Vous avez le GIEC, hein, pour tout ce qui va concerner le climat, et vous avez l'IPBES, hein, c'est-à-dire plateforme intergouvernementale, scientifique et politique, sur la biodiversité et les services écosystémiques. C'est le GIEC du vivant. Et vous le savez, ils se sont réunis il y a quelques jours à Paris. Et là, c'est même plus surprenant et je dirais plus grave que ce qui se passe sur le plan du climat. Mais les deux, évidemment, vont ensemble. En fait, on assiste à un effondrement du vivant autour de nous, notamment un effondrement de l'entomofaune. Et puis, pas derrière, mais là, on n'est plus dans la biodiversité, on est du côté des bactéries, un effondrement des bactéries du sol. Vous savez qu'un pays comme l'Angleterre, en tout cas, le ministère de l'Environnement anglais, il y a quelques mois de cela, a compté dans un rapport public le nombre de récoltes que l'état de leur sol leur permettrait encore. Donc, si vous voulez, on en est là. Et si l'on comprend bien la situation dans laquelle on est, eh bien, il y a un défaut, une absence de réaction vertigineuse.
Alors, vous rappelez dans votre programme, Dominique Bourg, pour Urgence écologique, que la malbouffe et les pollutions de toute nature sont à l'origine d'une pandémie mondiale de maladies chroniques. On pourrait inverser la tendance.
Alors, toute la difficulté en matière d'environnement, c'est qu'on est sur des dégradations long cours qui sont souvent irréversibles. On prend par exemple comme référentiel, c'est un référentiel international, celui des limites planétaires. On en est maintenant à 415 ppm, c'est-à-dire une concentration du CO2 dans l'atmosphère où vous avez 415 particules par volume d'air d'un million de molécules. Les périodes antérieures de l'histoire de la Terre, on était entre 280 et 300. Bah, vous n'allez pas, en quelques années, revenir à 280 ou 300, vous imaginez bien. Donc, quand on a dégradé quelque chose, et c'est bien là le problème en matière d'environnement, si vous voulez, l'environnement exigerait que l'on agisse avant que les dommages ne se fassent sentir. À partir du moment où les dommages se font sentir, c'est maintenant le cas pour le climat, et bien il est tard. Alors, il n'est pas trop tard, mais il est tard. C'est-à-dire qu'il y a un degré de dégradation que vous ne pouvez pas inverser. Donc du coup, pour reprendre votre exemple, on a disséminé partout dans les écosystèmes des métaux lourds, des molécules de macrosynthèse, etc. Au jamais une étude scientifique ne pourra vous dire quels sont tous les effets. Pour une raison toute simple, c'est que quand vous prenez déjà deux molécules, c'est difficile d'essayer d'identifier l'effet qu'elles peuvent avoir. Mais si vous prenez un cocktail d'un nombre important de molécules, vous ne le saurez jamais. Donc j'insiste là-dessus, on ne saura jamais. En revanche, ce qu'on voit, c'est énormément de maladies.
Et quelles maladies? Les cancers? Les cancers de l'enfant, notamment?
Les cancers, notamment, par exemple, pour les ouvriers agricoles, pour les paysans, vous avez les cancers du sang, vous avez d'autres types de cancers dont l'incidence est beaucoup plus forte. Alors, les cancers, effectivement, c'est une des formes de maladies, les plus, si vous voulez, qui explosent, qui ont explosé ces dernières années et qui désormais atteignent des gens très jeunes. Quand j'étais enfant moi-même, ça ne date pas d'aujourd'hui, il y a une quarantaine d'années, plus même, en fait, si vous voulez, autour de moi, je ne connaissais personne qui ait un cancer. Là, je connais un nombre important. Ma propre fille a été infectée par un cancer. Donc, c'est un changement, mais total. Et chaque auditeur va pouvoir faire le test avec lui-même. Et
comment,
son entourage.
Comment expliquez-vous que finalement le diagnostic soit connu, mais qu'il n'y ait pas de réaction collective, qu'on soit si lent à prendre les mesures qui s'imposent?
Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons psychologiques et il y a des raisons de lobbying. Souvenez-vous, par exemple, quand le CIRC a publié son rapport sur le caractère cancérigène du glyphosate, eh bien, dans les mois qui ont suivi, Monsanto a dépensé 17 millions, mais bien entendu, pour déstabiliser cette connaissance. Et vous savez que après...
Au moyen de la corruption?
Alors, au moyen du lobbying, de la corruption, oui, par exemple, on fait écrire des choses à des scientifiques marrons qu'on va payer, etc.
Vous-même, vous auriez pu être approché par...
Non, moi aussi, mais il m'est arrivé d'avoir des contacts, évidemment, avec les grandes sociétés. Dans les grandes sociétés, vous avez aussi des gens qui veulent aller dans le bon sens. Mais non, alors pour être rapproché, si vous voulez, pour faire quelque chose de marron, faut franchement déjà avoir mis un pied dans la chose et avoir fait état d'un certain nombre de dispositions. Non, moi, j'ai jamais été approché pour ce genre de choses.
Alors, il y a de nombreuses mesures dans votre programme, Dominique Bourg. Sur les transports, vous proposez la suppression des liaisons aériennes pour lesquelles il existe une alternative en transport en commun.
Pour les voyages de moins de 5 heures.
Voilà, pour les voyages de moins de 5 heures. Comment expliquez-vous que cela coûte plus cher aujourd'hui de prendre le train plutôt que l'avion, qui pollue davantage?
Tout simplement parce qu'en matière d'aviation, s'il n'y a pas de taxe sur le kérosène, vous avez vu qu'on a ressorti un projet de la commission pour instaurer une taxe, il n'y a pas de taxe sur le kérosène et en fait toutes les externalités négatives environnementales du trafic aérien sont prises en compte par les collectivités. Donc en fait, c'est le problème de toute la production aujourd'hui, c'est que le marché ne traduit qu'exceptionnellement et encore, si vous voulez, les externalités environnementales qui sont dues à la fabrication d'un produit. C'est-à-dire que, comme disait déjà Bertrand Jouvenel il y a plus de 50 ans, quand je produis un bien, en même temps, je produis des mots. Et le marché ne traduit jamais ces mots. Alors, en ce qui concerne le transport aérien, tout simplement, si vous voulez, les coûts sont répartis ailleurs. Alors qu'en revanche, pour le train, comme le train est souvent public, eh bien, effectivement, là, dans ces cas-là, les coûts réels se traduisent dans le prix.
Alors, il est urgent pour vous de rétablir les lignes de train abandonnées, puisqu'on voit de nombreuses gares fermées les unes après les autres.
Tout à fait. Mais alors là, je voudrais revenir simplement, si vous voulez, sur l'aviation. Effectivement, les transports aériens au monde, parce que pour un pays comme la France, et si vous prenez par exemple le département des Hauts-de-Seine, vous allez voir que c'est pas 3% d'émissions de gaz à effet de serre, parce que vous avez beaucoup de gens qui prennent l'avion, c'est un département riche. Donc, par exemple, pour le canton de Genève, je peux vous dire, c'est 18% des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'aéroport. Attention. Mais à l'échelle mondiale, c'est 3%, mais avec un taux de croissance très fort et exponentielle. D'où les, si vous voulez, les prévisions qui explosent hein, sur le trafic aérien. Donc là, on a un vrai problème. Alors pourquoi ces trajets courts? Tout simplement parce qu'un avion va consommer l'essentiel de son kérosène pour atteindre et sa vitesse de croisière et son altitude de croisière. Une fois qu'il les a atteints les deux, eh bien, si vous voulez, le nombre de kilomètres parcourus a un coût kérosène beaucoup plus faible. Donc quand vous prenez un avion pour un court courrier, c'est une absurdité écologique.
Vous réclamez un moratoire sur la construction de tout nouveau centre commercial à l'extérieur des villes. L'objectif, c'est de réduire notre dépendance à la voiture pour la consommation du quotidien?
Tout à fait. D'ailleurs, en fait, le concept d'hypermarché périphérique, c'est un concept qui ne se porte pas très bien aujourd'hui. C'est-à-dire les gens commencent à le déserter. De toute façon, voilà, on ne ferait jamais qu'accentuer. Mais effectivement, on a créé une dépendance très forte de chacun de nous à la voiture. Moi, j'ai pas de voiture, c'est autre chose, mais j'habite dans une ville et c'est assez bien fait, j'ai absolument pas besoin de voiture. Mais dès que vous êtes un peu à la périphérie, vous avez besoin de voiture. Et dès que vous êtes à la campagne, vous avez besoin d'une voiture. Donc, si vous voulez, l'idée, alors c'est sur un temps évidemment plus long, bah, c'est de faire que ce besoin se restreigne de plus en plus pour qu'on n'ait pas à recourir à terme à la voiture individuelle.
Dominique Bourg, les vélos électriques et autres trottinettes électriques sont considérés comme des transports propres, alors qu'il faut quand même les alimenter avec de l'électricité qui vient du nucléaire. Et j'ai lu que ces trottinettes étaient jetées au bout de 28 jours seulement. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux modes de transport dits propres ?
Bah écoutez, la trottinette électrique qu'on jette au bout de 20 jours, je ne pense pas que ce soit très propre. Non, en fait, ce qui est propre, c'est la mobilité douce. Mais de façon générale, si vous voulez, les meilleures émissions de gaz à effet de serre sont les émissions qu'on n'émet pas, justement. Alors, quand vous avez un vélo électrique, ça dépend où. Je veux dire, un vélo électrique à Paris, c'est pas très intéressant. Si vous êtes dans une ville comme à Briançon, ça devient différent. Là, le vélo électrique peut devenir vraiment intéressant. Ça va dépendre des endroits. En tout cas, si vous voulez, il faut bien raisonner avec nos objectifs globaux. Là, le GIEC nous dit qu'on a 12 ans pour, à l'échelle mondiale, réduire nos émissions de moitié. Donc, une trottinette électrique à Paris, je suis vraiment désolé, mais ça ne me paraît pas un truc absolument utile et indispensable.
La décroissance est-elle pour vous un sujet tabou, Dominique Bourg? Comment sortir de la société de l'hyperconsommation, pour reprendre l'expression que vous employez dans votre programme?
Alors, quand on parle de décroissance, il faut savoir de quoi on parle. La croissance qui est très problématique, c'est la croissance des flux de matière et des flux d'énergie. Celle-là, on n'a pas le choix. De toute façon, elle va finir par, ils vont finir par décroître d'eux-mêmes. Mais si on va jusque-là, autant vous dire que nos conditions de vie sur Terre vont être extrêmement rudes et que la Terre ne sera habitable que pour partie. Donc en fait, il faudrait anticiper et il faudrait volontairement réduire ces flux.
Maintenant, sobriété énergétique.
Sobriété énergétique et matérielle. Maintenant, si vous voulez méditer jusqu'à plus soif, lire, alors encore, ça va dépendre du vecteur et comment vous le faites, mais à l'infini, je veux dire, là, il n'y a absolument aucun problème. Donc, c'est pas une obsession contre toute forme de croissance. Si vous me parlez du programme de croissance de la sainteté, je vous dirais que je n'y vois aucune objection. Mais non, en revanche...
Vous parlez d'hyperconsommation, vous parlez des biens matériels.
Ah oui, mais des biens matériels, si vous voulez. Je vous parlais de l'avion tout à l'heure. Je peux vous donner cet exemple. Il y a 100 000 vols par jour au monde. Et en fait, un vol avec un avion de ligne important entre Le Caire et Seattle, c'est autant d'énergie dépensée que ce qui avait été nécessaire pour les grandes pyramides de Gizeh. Donc vous imaginez chaque jour le nombre de pyramides qu'on construit. Il y a quand même un problème qui vous voyez bien que ça devient du délire. Et regardez l'obsolescence des objets, l'accumulation. On a une industrie qui, à la différence de celle des 30 Glorieuses, qui était plutôt sur les grandes infrastructures, quand même avec certains éléments électroménagers, mais ils n'étaient pas très nombreux. Depuis lors, on a une espèce d'inflation d'objets. Et qui ne nous amène rien, mais en revanche, qui suscite des flux de matière et des flux d'énergie énormes. Si on va vers les objets connectés avec cette fichue 5G, j'aime autant vous dire que par rapport à l'écologie, c'est une contradiction frontale.
Pour vous, Dominique Bourg, il faudrait donc valoriser le recyclage, donner un coup de pouce aux magasins où l'on répare les objets au lieu de les jeter. Je pense aux cordonniers de notre enfance qui ont disparu. Oui, aujourd'hui,
presque.
Quand une chaussure est abîmée, on la jette.
Alors, ça dépend quand même de la qualité de la chaussure. Si vous avez acheté une chaussure d'un certain prix, vous pouvez quand même la réparer. Et au bout du compte, vous allez sans doute perdre moins d'argent qu'à acheter des chaussures à très, très, très bon marché. Maintenant, faites attention avec la question du recyclage. Hein. Un bien qu'on recycle, c'est un bien qui a été introduit, enfin, c'est un bien dont les matériaux, les matières ont été introduites dans le circuit économique il y a 10, 15, 20, 30, 40, 50, ça va dépendre. Et donc, si vous avez un taux de croissance des flux de matières entrant important, eh bien, quand, avec le recyclage, quand vous réintroduisez la matière introduite il y a 20, 30, 40 ans, en fait, ce n'est plus qu'une toute petite proportion de ce que vous consommez. Et donc, le recyclage, c'est peanuts si on a, si vous voulez, si on ne contrôle pas, si on ne capte pas les flux entrant dans une société.
Dominique Bourg, vous parlez des lobbies, c'est d'ailleurs le cas de toutes les listes qui se présentent aux élections européennes. Le consommateur doit-il être sensibilisé par des campagnes de boycott des produits les plus dangereux? Est-ce qu'il faut utiliser l'arme du boycott?
Non, l'arme du boycott est intéressante, mais surtout la première chose qu'il ne faut absolument pas boycotter, c'est l'information. Là, on est dans une campagne, il y a énormément de listes. Eh bien, moi, j'invite chacun, avant de voter pour qui que ce soit, d'aller vraiment regarder le programme. Le nôtre, c'est très simple, c'est urgence-écologie.fr et on trouve ça sous l'onglet fondation. On aura nos propositions. On regarde les gens qui sont sur la liste. Qu'est-ce qu'ont fait ces gens autrefois? Et là, on commence à rentrer dans une démarche sérieuse pour voter.
Vous-même, vous avez été membre de la Fondation Nicolas Hulot. On peut parler de votre parcours?
Tout à fait. Ça fait 30 ans, 35 ans que je suis chercheur dans le domaine de l'écologie. Donc, quand je parle d'écologie, à la différence de pas mal de gens, je sais de quoi je parle. Et effectivement, j'ai été numéro 2 de la Fondation Nicolas Hulot et j'ai été encore jusque à la fin de l'année dernière président du conseil scientifique de la Fondation Hulot.
Faut-il multiplier les procès contre les groupes industriels qui utilisent des pesticides, Dominique Bourg?
Ah oui. Là, si vous voulez, les pesticides aujourd'hui, j'ai encore signé une tribune, là, signée par plein de chercheurs qui est parue aujourd'hui dans le monde. Là, on n'a aucun doute, si vous voulez, sur la dangerosité, premièrement. On n'a aucun doute sur l'aptitude qu'on a à s'en défaire. Je vais vous donner un exemple. C'est une société belge de financiers. Je ne vous parle pas de philanthropes, mais bien entendu, des financiers. Eh bien, ces financiers, quand ils rachètent une ferme à l'échelle internationale, la première chose qu'ils font, c'est la convertir à l'agroécologie. Parce que c'est la condition, la rentabilité de la ferme en question et de la durabilité de la ferme en question. Dites ça de ma part à la FNSEA. Alors effectivement, ça serait engageant. Il y a beaucoup d'habitudes qu'il faut changer. Le coût de l'alimentation serait sans doute plus élevé. Peut-être que justement, pour aider les biens en agroécologie, en bio, etc., il faudrait sans doute supprimer la TVA et l'augmenter pour d'autres biens, de telle sorte qu'on baisse le coût d'accès. Mais un bien produit en agroécologie ou en agriculture biologique, c'est forcément un bien qui est plus riche en travail, donc qui est plus cher.
Mais on a des alternatives aux pesticides pour nourrir l'ensemble de la population européenne?
Alors, je vous dirais... Ah oui, alors ça, absolument aucun doute, si vous voulez. La FAO elle-même nous a dit, il y a quelques années, dans un de ses rapports, que l'agroécologie était beaucoup plus résiliente. Si vous voulez, l'agriculture chimique, c'est un peu comme si vous faites pousser des flûtes de champagne dans un champ qui est traversé par des sangliers. Il vous faut plein de barrières chimiques et physiques. Et en fait, ça coûte très cher et c'est extrêmement fragile. Et avec l'arrivée du changement climatique, en fait, c'est absolument pas résilient. Donc si vous voulez nourrir les gens, sortez de ce type d'agriculture.
Vous souhaitez créer une journée végétarienne européenne par semaine. Vous pensez aux cantines scolaires, aux restaurants d'entreprise?
Oui, bien sûr. Alors, quand on dit une journée végétarienne, ça ne veut pas dire qu'on appelle les gens à cesser complètement de manger de viande. Ça, c'est une position éthique qu'on peut avoir. C'est pas la mienne, je vous dis tout de suite. En revanche, ce qui est très important, c'est à la fois, effectivement, alors sur le plan écologique et le plan carbone, c'est réduire notre consommation de viande et tout particulièrement notre consommation de viande rouge. Et quand on consomme de la viande rouge, on fait très attention aux conditions d'élevage, aux conditions d'abattage, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un élevage industriel qui est une espèce de honte éthique.
Pour la souffrance animale, vous pensez à ça?
Évidemment, pour la souffrance et le bien-être, mais c'est une horreur. Et donc ça, je pense que ça soque les gens, ils l'oublient parfois dans leurs achats, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Il n'y a pas de doute là-dessus pour nous.
Dernière question, Dominique Bourg, vous êtes donc tête de liste d'urgence écologie, liste créée et soutenue par Delphine Batho, ancienne ministre de l'Environnement. Yannick Jadot est à la tête de la liste Europe Écologie Les Verts. D'autres partis de gauche parlent d'écologie. Pourquoi une liste écologiste de plus?
Alors, ce n'est pas une liste d'écologie de plus, parce que toutes les listes, les 34... parlent toutes d'écologie.
Notamment La République En Marche.
Oui, 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 alors voilà, c'est un peu un gang, mais effectivement, ils en parlent beaucoup. Mais, si vous voulez, donc le problème, c'est pas dire une liste d'écologistes de plus, sinon à ce moment-là, je veux dire, il n'y a plus personne. Si on doit retirer, ou alors il n'y a qu'une seule liste. Hein. Si effectivement, ce qui doit donner la légitimité d'une liste, c'est de parler d'écologie, et s'il en faut... Ben voilà, il n'y en aura plus qu'une. C'est complètement ridicule, c'est antidémocratique. Hein. Et donc, en fait, le problème, c'est comment on en parle et qu'est-ce qu'on propose? Ben, regardez nos propositions, regardez les propositions. Le programme de Yannick Jadot, c'est pas du tout le même. En tout cas, ils vont bien dans la même direction, mais pas du tout au même rythme que nous. Je peux vous donner l'exemple de l'agriculture. Par exemple, eux, dans leur programme, il y a conversion à l'agroécologie 30% en 2025, 100% en 2050, c'est-à-dire que pendant plusieurs décennies, 70% du financement de la PAC est alloué à l'agrochimie. Ah ben ça, nous, on n'est pas vraiment d'accord. Et ça ne correspond en rien à ce que nous disent l'IPBES et le GIEC.
Merci Dominique Bourg. Je rappelle que vous êtes tête de liste d'urgence écologie aux élections européennes, une liste soutenue par Delphine Batho. Bonsoir.
Bonsoir.